La mort idéale, alors c'est tout simple, moi c'est de m'endormir le soir et puis que ça soit fini. Oui, c'est sûr, c'est l'idéal. Mais si ça n'arrive pas comme ça, j'avoue que je réfléchis pas. Je n'ai jamais pensé à comment j'aimerais mourir, non ?
Paula, pour toi, c'est quoi la mort idéale ?
S'endormir et pas se réveiller.
Et pour toi, mourir, c'est quoi ?
C'est quoi ces questions ? Enfin, excuse-moi, j'ai 16 ans, je vais peut-être pas penser tout de suite à ma mort.
La mort idéale ? Mais ça n'existe pas, la mort idéale.
La mort idéale, je dirais rapide, bien entourée, sans souffrance.
Et pour moi, ce serait dans un bel endroit, entouré de personnes qu'on aime et une mort pas douloureuse, de préférence.
Pourquoi pas vieille ?
Pourquoi pas vieille ?
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas vieille ?
Pourquoi pas vieille ou comment débattre du vieillissement en se racontant ? Que se passe-t-il quand on vieillit ? Qu'est-ce qui se dit ? Qu'est-ce qui ne se dit pas ? Qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce qu'on ne se dit pas ? Pourquoi pas vieille ? Réalisé par Alexia Guignard.
Pourquoi pas vieille ? Pourquoi pas vieille ? Pourquoi pas vieille ?
Deuxième épisode de Pourquoi pas vieille sur la mort idéale, avec les associations Pourquoi pas vieille et Ultime Liberté. Rencontre qui s'est déroulée dans les studios de Radio U à Brest. Vieillir et mourir, qu'est-ce que la mort idéale ? Mourir dans son sommeil, mourir sur scène, mourir sans souffrance, mourir dans son jardin, mourir avec ses proches. Ces moments radiophoniques sont des moments pour chacun et chacune de réfléchir à sa mort, de partager sa vision, ses projections. Parler de la mort ne va pas de soi, surtout pour soi. Qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce qu'on ne se dit pas sur la mort ? En parler avec Ultime Liberté et Pourquoi pas vieille permet d'élargir les réflexions individuelles et collectives.
Si je remonte à mon enfance, moi, donc dans les années 60-70, en fait, en France, la mort faisait partie de la vie quelque part, parce que quand quelqu'un mourait, il y avait du noir autour de la porte d'entrée, les femmes étaient habillées en noir, il y avait le cercueil où on suivait le corbillard jusqu'au cimetière, et puis il y avait le repas après le mort. On parlait du mort, on commençait à faire le deuil en fait à ce moment-là, en parlant du mort, même en se marrant des fois, parce qu'on racontait des histoires drôles sur le mort, enfin, on se souvenait de bons moments passés avec lui.
C'est vrai que quand on était enfant, on allait voir les morts, en fait, parce que les gens ils mouraient à la maison. Et les enfants accompagnaient les parents, grands-parents, on allait voir le tonton, la tante qui était dans son lit, qui était morte. Donc on avait, ça faisait partie de la vie, en fait. Ouais.
En même temps, on en a tous gardé le souvenir, donc c'était quand même quelque chose de fort. Moi, je me rappelle bien avec ma grand-mère, elle était effectivement allée voir la voisine sur son lit. Si j'ai encore cette image dans la tête, c'est que comme c'était pas si simple que ça, même si ça faisait partie de la vie, c'était quand même un peu bizarre quand on a, je sais pas, une dizaine d'années, quoi.
Ouais, mais l'apprentissage se faisait jeune, alors que maintenant, souvent, le premier mort qu'on voit, c'est des fois à 40, 50 ans. Et donc, du coup, on a passé, les gens ont passé leur âge mature, en fait, sans connaître... concrètement, charnellement, quelque part, la mort. C'est vrai que moi, j'ai été confrontée à la mort quand j'avais 17 ans. Et c'est là où ça a déclenché pas mal de trucs. Mais je vois mes enfants, le premier mort qu'ils ont vu, c'était mon père. Et ils avaient 25 ans, mes aînés. Et c'est vrai que ça leur a fait un choc à ce moment.
Ouais, mais alors moi, je me permets. Moi, j'ai le premier mort que j'ai vu, j'avais 6 ans. Parce que mon grand-père était décédé, c'était un milieu assez religieux, donc il y avait une veillée avec tout le monde entourait le corps et tout ça, mais il n'y avait pas de mots en fait. Enfin, moi, c'était une expérience assez traumatisante parce que je comprenais rien en fait de ce qui se passait, toute cette peine, tous ces rituels, tous ces c'était assez incompréhensible et moi ça m'a parcouru. Jusqu'ici, enfin moi aujourd'hui, je vais pas voir les morts parce que ça me fait peur. Et peut-être que ce sur quoi il faut réfléchir aussi, c'est comment en parler de la mort. Enfin, je crois qu'on n'en parle pas, je crois qu'elle est toujours là, mais on n'en parle pas de manière sensible, en fait, je crois. Enfin, elle est présente dans les films, elle est présente sur... enfin, quand on a la télé, elle est omniprésente, quoi, dans les médias, dans les... Mais on ne met pas de sens autour, ou je ne sais pas, on ne prend pas le temps d'en parler, en fait. Est-ce qu'on a des endroits où on peut se préparer, avoir des espaces d'échange, en fait. Là, je pense, j'ai fait l'expérience au contre-salon des vieux et des vieilles là, qui s'est tenu à Paris. Il y avait l'expérience d'un café mortel, où chacun va raconter son histoire, va raconter des choses par rapport à son expérience de la mort, plus intime. Et bah, ça fait vachement de bien, en fait, de prendre une heure et de s'écouter, de se raconter, et de se rassurer, de se dire qu'on n'est pas ridicule dans nos manières de penser ou d'être face à la mort. Et en fait, voilà, je pense que peut-être il y a une réflexion à mener par rapport à des espaces ouais, de parole autour de ces expériences de la mort, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Enfin, je ne sais pas si vous le pensez en ces termes-là, mais en tout cas, voilà, c'est nos petits arrangements avec nos morts. C'est un film. Hein. Enfin, bon, voilà, en tout cas, elle fait partie de la vie, c'est sûr, et on n'a pas toujours... Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est difficile de donner un sens à nos émotions autour de la mort. Et que ça peut vraiment apaiser, en fait, d'en parler. D'en parler, c'est aussi se raconter. Enfin, se raconter comment on se prépare quand c'est un peu plus... quand cette mort idéale, elle ne se passe pas voilà, idéalement. Et qu'est-ce que... d'aller témoigner, partager d'une expérience d'accompagnement, soit par l'écriture, ou c'est aussi s'outiller, quoi, de partager nos expériences. Et puis enfant, on n'est pas... ouais, enfant, c'est difficile, hein, de donner du sens à tout ce qui se passe, les rituels, etc.
Moi, je voudrais juste dire, quand tu parlais, on parle des enfants, enfin, ça, personnellement, j'étais beaucoup plus obsédée par la mort étant enfant qu'en vieillissant, sauf maintenant, parce que ça approche, en fait, donc j'y pense plus souvent. Mais je trouve quand... alors, c'est peut-être moi qui étais particulièrement morbide, mais je trouve qu'étant gamine, j'avais très, très peur de la mort. J'ai eu peur du noir jusqu'à 16 ou 17 ans. Je pense que tout ça, c'était lié. Et je me rends compte que mes petits-enfants... Tout ça, je vois ma petite fille encore la semaine dernière. Donc, comme je suis la grand-mère, je suis vieille. Et c'est tout le temps la question qu'elle me pose. Tu es vieille, donc tu vas bientôt mourir. Et ils m'ont tous dit ça, les petits-enfants. Donc, dans leur, c'est normal, en fait. Je vais mourir et je vais être la première à mourir.
Et tu leur dis oui.
De la famille. Je dis oui, bien sûr. Je vais mourir, c'est moi, puis c'est moi la plus vieille. C'est moi qui vais mourir en premier. Et... par rapport au rassemblement après les enterrements. Alors, je ne sais pas si c'est une expérience personnelle, mais moi, dans ma famille, ça se fait tout le temps. Hein. Ouais, toujours un goûter après. Et c'est vrai que et ça fait tellement de bien, en fait. On retrouve des membres de la famille, c'est un peu triste, mais qui sont un peu éparpillés, qui reviennent. Et ça finit par être apaisant, en fait. Hein.
J'aimerais bien vous poser une question plus par rapport à votre engagement dans l'association Ultime Liberté. Vous avez dit que la différence, enfin, vous aviez un plus, enfin, je traduis comme ça, par rapport à la DMD, par exemple, qui est en particulier l'accompagnement. Parce que la DMD, bon, au niveau des directives anticipées, bon, voilà, des personnes de confiance, tout ça, eux, ils font cette information. Donc, vous avez, vous, ce plus qui est l'accompagnement. Alors, est-ce que, je ne sais pas, vous pouvez nous en dire plus que ce que vous avez dit tout à l'heure? Est-ce que ça peut être plus concret ou pas, d'ailleurs? Enfin, bon, voilà. Si une personne souhaite donc votre aide, puisqu'on est dans l'aide active à mourir. Comment ça va se traduire dans la relation que vous allez aller à mettre en place avec elle, et jusqu'où et comment, quoi.
Moi, je peux parler que de mon cas, de mon expérience personnelle, mais je précise l'accompagnement de mon épouse, donc, mais qui a fait aussi les démarches elle-même, parce qu'elle était en capacité de le faire. En fait, lorsqu'on est dans une situation où on est totalement désemparé, c'est ce qu'elle a vécu et c'est ce que j'ai vécu avec elle, c'est-à-dire qu'on a... pendant plusieurs années, on fait le tour un peu partout de tous les parcours de soins possibles. Et à chaque fois, c'est des portes qui se referment avec, sans issue. Donc, il y a un moment où on est totalement désemparé et on ne sait pas quoi faire, mais qu'on a très envie d'arrêter tout ça. C'est l'accompagnement, c'est ça, c'est essayer de trouver des conseils, un soutien, une aide pour trouver le moyen, effectivement, comment faire, trouver des réponses aux questions qu'on se pose, parce que ça n'existe pas dans le cadre de la loi, par exemple. Voilà. Dans le cadre des institutions.
Française,
voilà. Donc, l'accompagnement, eh bien, c'est ça. Si ce sont des personnes qui sont un peu désemparées et qui cherchent des conseils ou une aide. Mais,
ou une oreille aussi.
Ou une oreille aussi, voilà. Voilà.
Mais au-delà de ça, puisque tu as parlé tout à l'heure de l'aider, aider la personne à choisir sa fin de vie par tous les moyens légaux, enfin, voilà,
européens.
Voilà, donc j'imagine que ça va plus loin que le conseil, juste la parole.
C'est-à-dire quand on l'écoute, en fait, et on l'aide à exprimer ce qu'elle ressent, ouais, mais en restant le plus neutre possible. L'objectif, c'est d'être neutre dans les échanges, puisqu'on ne peut pas, on se refuse d'influencer la personne. Donc, de parler avec quelqu'un qui est étranger à ses connaissances et qui ne va pas juger ce qu'elle dit, ça lui permet de s'exprimer et de bien exprimer sa pensée, si j'ose dire. C'est-à-dire de la confronter. Et une fois que elle a bien défini ce qu'elle souhaite, on essaye de trouver des solutions. Et il y a un temps de maturation, c'est-à-dire elle va nous demander de la voir, on y va. Et après, si elle veut nous revoir, c'est elle qui fera la demande. Jamais on va dire, bon, ben, on se voit quand, ça on ne fait pas. Non, on attend toujours qu'il y ait un temps de maturation. Parce que l'accompagnement, ça peut être un temps très long, en fait. Le temps que les choses se maturent, c'est pas un choix anodin, c'est le dernier, c'est l'acte ultime de vie, la mort. Donc c'est pas quelque chose de neutre, loin de là.
Je ne sais pas ce qu'est une mort idéale. Ce qui peut être les souhaits, pour moi, c'est mourir accompagné, mourir en société. Parce que je ne crois pas qu'on meurt seul. On peut mourir seul aussi, ou se trouver seul pour mourir. Mais, et je dis pour mourir, parce que pour moi, il y a le mort, le corps mort, et on voit comment il est traité. On l'a vu pour la Covid, on le voit sur le champ de bataille, enfin, les corps qui allaient dans les sacs plastiques. Si j'évoque ça, c'est parce qu'autour du mort, il y a des rituels, il y a des fantasmes, il y a des traditions historiques, il y a les danses macabres peintes ici ou là. C'est pas tout à fait mon sujet, mais on baigne néanmoins là-dedans, et pas que dans les morts qu'on a vus. on est élevé là-dedans. Enfin, il y a les cimetières où il y a la crémation. Mais moi, je pense que on dit mourir, le passage de la vie, le trépas. Mais il y a le mourir. Et la mort prend son temps. Plus exactement, le mourir prend son temps. Et c'est plus ce qui me préoccupe, moi. C'est-à-dire les conditions humaines d'accompagnement de celui qui est en train de partir. Anne nous a évoqué une situation particulière où la mort était annoncée et où, du coup, le mourir était le quotidien, pas la mort. La mort, quand elle est là, elle a fait son œuvre. Mais, et du coup, je suis un peu dubitative, on va dire, par rapport à toute la terminologie qu'il me semble voir se diffuser actuellement, qui est réussir sa mort, bien mourir, bien vieillir. Et effectivement, j'entends bien, me semble-t-il, quand vous dites il faudrait bien vivre. Ah ben ça, tout à fait d'accord. Bien vivre jusqu'à la fin. Mais c'est bien ça notre énigme. Pourquoi pas vieille ? C'était des préoccupations de ce que vivent les femmes face à la vie au moment de la vieillesse, mais c'est aussi la prise en soin des gens qui vont mourir, les ensevelisseuses, celles qui font l'entretien de la vie, du mourir et tout ça, c'est des femmes. Donc moi, c'était mon angle pour pourquoi pas vieille. Voir les femmes étrangères qui vont s'occuper de nos mourants ou de nos malades, de nos personnes handicapées. Et je ne crois pas comment le droit ne définit pas les modalités d'accompagnement de qui que ce soit. Le droit définit des interdits. Je pense que ce qui nous manque, c'est des rituels d'accompagnement, des temps difficiles de la vie et tout ça.
J'ai l'impression, en tout cas, que vous avez été assez clair. C'est pas soin, c'est pas, il y a pas d'exclusion, quoi. Il y a un choix. Il y a des soins palliatifs. Il y a pas de prise de position contre telle ou telle chose. C'est juste que on a chacun une vision de notre mort et qu'on aimerait bien pouvoir effectivement avoir ce choix.
Une question. Alors, est-ce qu'on sait à peu près le pourcentage de gens en France là, qui ont justement fait des directives anticipées? Est-ce que on a le droit ou est-ce qu'on peut recenser à peu près pour savoir quel est l'impact de cette
sur les directives anticipées? Les statistiques qui ressortent, c'est 15% à peu près, entre 10 et 15% des Français auraient. Auraient fait leur directive anticipée.
Ouais. Et il y a un chiffre là dans l'article du Monde diplomatique là sur. Il disait que 57% des plus de 65 ans ne connaissent pas le terme directive anticipée.
Ah, alors moi je sais. Ouais, de façon encore plus forte. Moi je sais pas. Moi les directives, j'en parle beaucoup. Enfin j'en parlais moins maintenant, mais au moment où je l'ai fait, j'en parlais aux copines et tout ça. Il y en a plein qui mettent tout de suite plaf, comme un rideau qui tombe quoi. Mais moi je suis ou alors moi je suis pas vieille déjà. Alors c'est la première. Bon, nous ça va, on est clair là-dessus, on est vieille et on sait. Mais aussi on va mourir, donc les directives anticipées, on ne sait pas si c'est demain, après-demain ou je ne sais pas quand. Donc, mais il y a toujours cette difficulté à se projeter dans sa propre mort, qui fait que même des gens, moi, dont je suis proche, avec qui j'ai l'impression que c'était partagé, j'arrive pas, quoi. La directive anticipée, c'est pour les autres, c'est pas pour elles, quoi. Moi, c'est quelque chose qui me surprend, parce que je trouve pas que ce soit un engagement extraordinaire de faire ça, enfin.
Les directives anticipées, c'est une déclaration écrite que vous rédigez pour préciser vos souhaits liés à la fin de votre vie. Vous exprimez ainsi par avance votre volonté de poursuivre, limiter, arrêter ou refuser des traitements ou actes médicaux. Vous indiquez par exemple accepter ou refuser une réanimation cardiaque et respiratoire, une assistance respiratoire, une alimentation et hydratation artificielle. Elle permet de faire connaître par avance vos souhaits sur votre fin de vie, dans le cas où vous ne pourriez plus manifester votre volonté. Par exemple, suite à un coma, en cas de troubles cognitifs profonds, à la suite d'un accident ou du fait de l'évolution d'une maladie. Ces directives anticipées ont été introduites dans le Code de la santé publique par la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. L'article 8 de la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie complète ces directives anticipées.
Même les études auprès des personnes condamnées, comme on dit, montre aussi le jeu ou les négociations autour des normes ambivalences. Quelqu'un peut un jour réclamer à mourir, à partir, peut un jour arrêter son traitement. On a étudié en particulier auprès des cancéreux, mais pas que. Et les soignants eux-mêmes, je pense qu'il y a un certain nombre qui sont partisans du choix, tout ça, et qui montre bien tous ces allers-retours. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas qu'on simplifie en disant ben, « je choisis et tout ira bien ». Parce qu'effectivement, on va tous choisir de mourir la nuit dans notre lit en faisant des beaux rêves. Mais non, je dis ça parce que les directives anticipées, comme le consentement éclairé, comme, on voit bien que c'est des dispositifs dont on est bardé, lardé et tout ça, et que ça ne suffit pas à faire un débat de société enrichi, comme on tente d'amorcer là, en prenant garde à écouter ce que chacun dit, parce que chacun prend ce phénomène énorme, la vie et la mort, c'est un peu pareil. Et donc, comment on compose cette mosaïque avec les désirs des uns et des autres? Et par ailleurs, rien ne nous dit... Quand on commence à mourir, moins que ce soit à la naissance, quand, enfin, voilà, c'est et qui plus est, il y a des, vous savez bien, il y a les questions de la douleur, tu l'as évoqué, il y a des douleurs réfractaires, il y a des personnes, et je pense que vous en connaissez, qui ont choisi, qui ont leur directive anticipée, qui ont la pilule du bonheur éternel, je ne sais trop où, bon, enfin, qui ont tout ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est un constat que je crois que vous évoquez des fois ou que les personnes dans les pays européens dans lesquels soit le suicide assisté, soit l'euthanasie est pratiqué, ils disent le fait d'avoir cette sécurité-là fait que les personnes sont moins pressées de partir parce qu'elles ont un peu préparé les choses. Mais c'est vrai que pour moi, la mort, et le mourir est l'affaire des vivants.
Ça m'est pas important d'agir. Hein? Et pour moi, agir, c'est arriver à faire des choses qui, ainsi, même si c'est dans la prochaine génération, en sorte que les choses changent. Et les gens, après, en souffrent un peu moins avec ça. Je crois que parler de la mort, c'est important. Et qu'on en parle où on soit et qu'on continue à échanger là-dessus dès l'espace qu'on est dans chaque occasion qu'on a. À moi, ça me paraît une posture militante.
Tout à fait. Je pense que cette émission aura contribué justement dans ce sens-là. On vous remercie pour ça. Il aura contribué. Un extrait de Zarathoustra de Nietzsche. Mourir fièrement quand il n'est plus possible de vivre avec fierté. La mort librement choisie, la mort au moment voulu, lucide et joyeuse, accomplie au milieu de ses enfants, de témoins, de sorte que de vrais adieux soient possibles, puisque celui qui prend congé est encore présent et capable de peser ce qu'il a voulu, ce qu'il a atteint, bref, de faire le bilan de sa vie.
C'était Pourquoi pas vieille, réalisé par Alexia Guignard. Deuxième épisode sur la mort idéale qui fait suite à un atelier radio qui s'est déroulé avec l'association Ultime Liberté et précisément son antenne finistérienne et l'association Pourquoi pas vieille.